Mis à part un appui ouvert de Québec solidaire, l'Union paysanne ne reçoit pas dans la présente campagne électorale de soutien marqué ou officiel des partis politiques. Mais cela ne décourage pas le président de l'Union paysanne, Maxime Laplante, avec qui je me suis entretenu. Maxime Laplante, bonjour.
Bonjour, M. Lévesque.
Maxime Laplante, on est dans votre terroir, si on veut, dans Lotbinière. Et vous êtes à préparer une terre, je pense, pour de la culture de céréales biologiques.
Oui, effectivement. Bon, pendant plus de 30 ans, j'avais des élevages d'animaux assez diversifiés pour les besoins de la grande famille. Puis là, ben, avec la disparition des enfants, donc je convertis des champs. J'étais déjà sans pesticides, sans engrais chimiques, mais pas dans certification biologique. Mais là, actuellement, je passe à la certification bio pour la production de céréales, effectivement. Donc là, oui, tout autour, on a des champs qui sont en processus de désherbage mécanique, donc herçage jusqu'à tuer la mauvaise herbe et semis dans un avenir approché.
Donc, tous vos temps libres passent à ça?
Essentiellement, oui. Nettoyer les fossés pour le drainage, il y a un peu de nivelage, il y a de l'accession de machinerie aussi, comme vous voyez dans la cour. Beaucoup de travail au champ, encore de l'épierrage, bûcher, il faut construire un hangar également. Fait que oui, mes temps libres sont bien occupés.
Et en plus de votre tâche de professeur, est-ce que vous avez le temps à travers tout ça de regarder un petit peu ce qui se passe dans la campagne électorale?
Je dirais malheureusement oui. Donc oui, je regarde bien évidemment surtout les questions agricoles, pas que je m'intéresse pas au reste, mais disons qu'avec l'Union paysanne, c'est clair que c'est notre préoccupation majeure. Bon, si votre prochaine question concerne mes espoirs de prochain gouvernement en matière de questions agricoles, c'est sûr que le souhait qu'on a, c'est que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, passe enfin à l'action en ce qui concerne, entre autres, le monopole de l'UPA, qu'il soit libéral, caquiste, péquiste ou Québec solidaire ou peu importe. Ça, c'est une priorité. Je pense que toutes les formations politiques ont vécu ce que c'est que de vivre le monopole de l'UPA, que beaucoup en ont vraiment marre. La question est plus de savoir, bon, comment on fait pour changer la chose. Fait qu'il y a une question de courage politique aussi, à un moment donné, de dire, OK, oui, la démocratie, il va falloir qu'on l'applique au Québec dans le domaine agricole. C'est pas juste une fiction. Ça amène des problèmes d'avoir un monopole. Lorsque l'UPA, présentement, leur demande encore plus d'argent pour l'industrie porcine, plus d'argent pour ci, plus d'argent pour ça, alors que c'est un modèle qu'ils ont bâti de toutes pièces. Bien évidemment, s'il n'y a pas de concurrence, s'il n'y a pas d'autre opinion, bien, ça devient difficile de dire non. Fait que le gouvernement se retrouve un peu dans une position difficile, alors que ce serait nettement plus facile, je crois, en tant que dirigeant, d'avoir plusieurs avis. Il serait toujours possible de dire, bon, écoutez, on va entendre les différentes parties puis on va essayer de se faire une position là-dessus, alors que là, ils sont tout le temps sous la pression. Ils sont la tête sur le bio avec la menace de l'UPA. On l'a vu en la dernière conférence de presse sur la gestion de l'offre où toutes les formations politiques se précipitent pour aller à peu près signer un chèque en blanc de soutien à la gestion de l'offre sans même poser de questions sur une éventuelle réforme de la gestion de l'offre. Donc, on est en faveur du système de gestion de l'offre, mais pas de la façon dont c'est géré au Québec. C'est une aberration. On assiste à la disparition des fermes, on vide les villages, puis on ne remet rien en cause. Des vaches à 25 000 piastres quota non disponible pour le poulet, il n'y a pas de relève, il n'y a pas de place pour les jeunes, il n'y a pas de place pour la diversification. On continue à aller comme une locomotive dans le mur, puis sans réflexion aucune. C'est extrêmement dangereux. Bon, tôt ou tard, l'intégration va rejoindre dans le domaine agricole des domaines qui jusqu'ici en ont été un peu préservé. Je pense à l'industrie laitière. Tôt ou tard, si une ferme vaut 4 millions, 5 millions, la relève va se faire de plus en plus rare. L'étape suivante, c'est quoi? Les seules entreprises qui ont les moyens d'acquérir ce genre d'entreprise-là, ce sont des consortiums. Ils vont verticaliser, comme ils l'ont fait dans le porc, comme ils l'ont fait dans le veau de lait, comme ils l'ont fait dans la volaille en grande partie. Donc, quand l'UPA nous prétend, il n'y aura jamais de grande ferme laitière au Québec, désolé, là. C'est un vœu pieux, c'est un rêve ésotérique. Il n'y a rien de valable là-dedans. Si on continue comme ça, à ne pas vouloir diversifier l'agriculture, c'est une question de temps avant que ça nous rattrape.
Mais qu'est-ce qui serait différent cette fois-ci? Parce qu'il y a quand même l'Union paysanne a 17 ans et ces revendications-là, vous les avez depuis le début et elles existaient même avant l'Union paysanne. Qu'est-ce qui serait différent cette fois qui amènerait les partis politiques à bouger? Parce que les positions semblent assez campées. Et il y a même le premier ministre Couillard qui a dit « Non, je m'accommode très bien du monopole de l'UPA. »
Je pense que tôt ou tard, la facture arrive. Je pense que c'est la question économique qui, tôt ou tard, va effriter des morceaux dans la forteresse. Je regarde, par exemple, les positions de l'ALENA en matière de gestion de l'offre. Présentement, à vouloir maintenir intégralement le système de gestion de l'offre sans aucune réforme, sans aucune modification, on va la faire disparaître. Je pense que le premier obstacle au maintien de la gestion de l'offre, c'est principalement la position radicale et conservatrice à outrance de l'UPA là-dessus. Si on ne permet pas à de la relève d'avoir accès aux quotas, tôt ou tard, la gestion de l'offre va devenir une monnaie d'échange dans les accords internationaux. On ne peut pas tenir un discours schizophrénique en disant « les frontières sont ouvertes parce que le Canada fait du libre-échange », mais lorsqu'il s'agit de produits sensibles comme le poulet, le fromage, les œufs, le lait, etc., alors non, ça ne marche plus. Les partenaires commerciaux, avec raison, vont dire « écoutez, votre frontière est ouverte ou n'est pas ouverte ?» Donc, ils vont se faire des échanges. C'est ce qui est déjà commencé avec les accords de Transpacifique ou les éventuels accords de l'ALENA. Ah, est-ce qu'on pourrait avoir un 3,5 % du marché accessible, le diafiltré qui rentre aussi? Donc, on est en train, pour des raisons économiques, d'effriter le système de gestion de l'offre. Mais non, on maintient la ligne dure et rigide. Bon, et tôt ou tard, il va y avoir quelqu'un qui va mettre son poing sur la table, comme Harper le fait avec la Commission canadienne du blé, qui est, elle, un peu l'équivalent de gestion de l'offre du blé dans l'Ouest canadien. Il va dire, bien, il y en a marre. Et on sera sans défense devant un système comme ça. Donc, je pense que les questions économiques, quand les producteurs de porc pour faire de l'exportation demandent encore plus d'argent, ça coûte centaines de millions, et on dit, bon, écoutez, on a construit des bâtiments où les porcs n'auraient pas le droit de se revirer de bord dans des cages de contention, puis on va exporter dans des pays où les gens disent, bon instant, là, nous autres, question de bien-être animal, il faut que les animaux puissent bouger. Oui, mais ça, c'était évident, là, qu'il faudrait que les animaux aient un peu d'espace pour bouger. Fait que là, ils demandent de l'argent pour être capables de convertir les étables pour les adapter aux demandes en bien-être animal de la clientèle étrangère. C'est certain que ça va avoir un coût. Fait que tôt ou tard, le Conseil du Trésor va dire, écoutez, on paie une fortune en matière de subventions agricoles, de programmes de toutes sortes, et le résultat, c'est qu'on mise essentiellement sur l'exportation au lieu de miser sur la consommation de nos populations. Fait que tôt ou tard, il va dire, écoutez, on va arrêter de payer ces milliards-là.
Il y a la renégociation de l'ALENA, vous en avez parlé un peu. Si les Américains, et on peut penser que c'est ça qui va arriver, obtiennent une part d'accès au marché canadien comme l'Europe l'a eu, comme la zone Pacifique l'a eu, on peut penser que la gestion de l'offre, donc, va être encore émiettée un petit peu. Et dans ce contexte-là, ça devient encore plus difficile, vous ne pensez pas, pour l'Union paysanne et d'autres groupes de réclamer des parts de production hors quota?
Je pense que non. D'ailleurs, on a une démarche qui est amorcée devant la Régie des marchés agricoles à ce sujet-là. Le premier point, donc à la fin octobre, entre le 26 octobre et le 2 novembre, on est en audience devant la Régie des marchés agricoles sur la question du hors-quota. Grosso modo, ce qu'on demande, c'est un peu ce qui se passe partout ailleurs dans le Canada, qui a pourtant, à l'échelle canadienne, la gestion de l'offre et les plans conjoints. Donc, on demande que le Québec, qu'il soit possible d'élever, par exemple, 2000 poulets ou 300 pondeuses sans avoir à acquérir un quota, qui au départ a été distribué gratuitement aussi, là. Ceux qui étaient là en premier dans les systèmes de quotas, ils n'ont pas payé le quota. Hein? Ça a pris tranquillement de la valeur. Donc, ils sont assis sur des valeurs spéculatives incroyables et la relève est bloquée là-dedans. Puis pour une ferme, d'être limitée à 99 poulets, il n'y a aucune façon économique de s'en sortir. Je peux pas, je l'ai fait pendant des années, je peux pas financer un abri pour mes poulets, d'avoir mangeoires, abreuvoirs, etc. La famille va déjà en consommer 80, il va me rester 19 poulets à commercialiser, mais je peux pas financer ou rentabiliser une opération avec la vente de 19 poulets par année. C'est complètement absurde. Puis là, il y a un quota dans le lapin aussi. Fait que j'ai perdu le droit de commercialiser mon lapin, puis j'ai pas le droit de vendre des œufs. Puis... Bon, fait que ce qu'on demande, c'est simplement l'équité canadienne de un. Comment ça fait qu'on a le droit en Colombie-Britannique de vendre 2000 poulets, qu'on a le droit de vendre du lait en vente libre, lait cru à la ferme en Alberta, 50 litres par jour? Pourquoi le Québec est si restrictif? Ça cause monopole de l'UPA. Et c'est un conflit d'intérêts. Ce sont les détenteurs de quotas qui décident qui aura le droit d'avoir du hors-quota. C'est une aberration absolument incroyable. Normalement, ça devrait relever du MAPAC. Le ministère de l'Agriculture devrait dire, bon, jusqu'à tel niveau de production, c'est de la vente directe, de proximité, on permet ça. Puis au-delà de ça, c'est une mise en marché commerciale pour alimenter les grandes villes, les grands centres, etc. Donc ça devrait être soumis à des quotas, mais pas les petites productions. Bon, et présentement, c'est l'UPA qui a plein contrôle là-dessus, en conflit d'intérêts. Et d'autre part, on demande carrément l'application de la loi. La loi sur la mise en marché des produits agricoles du Québec, l'article 63, pour ceux qui veulent vérifier, dit très clairement, toute mise en marché directe, peut-être faite sans quota, sans plan conjoint, sans agence de vente obligatoire, librement. La deuxième phrase dit « La régie peut en décider autrement si elle juge qu'une menace pour l'application des plans conjoints ». Évidemment, étant donné que juste les fédérations et les filiales de l'UPA qui ont accès à la régie depuis un demi-siècle, mais là, on dit, écoutez, si quelqu'un commence à vendre 99 poulets plus 1, 100 poulets, écoutez, il y a une menace incroyable pour le marché. C'est tout le système qui s'effondre. Et Métro sera inquiet. L'aube, je caricature un peu, mais c'est pas vrai. Ce qu'on a affirmé depuis le début a été corroboré par l'Université Laval. L'enquête du rapport Cyrano avec M. Mandela démontre exactement, chiffre à l'appui, ce qu'on affirme depuis le début. Il n'y a aucun problème pour les restants du marché si on permet à des fermes d'avoir 300 pondeuses ou 1000 poulets ou 2000 poulets ou des trucs comme ça. De un, c'est une vitalité économique absolument incroyable. Moi, de me permettre d'avoir subitement 1000 ou 2000 poulets, bien, je viens de consolider mon revenu net à la ferme, mais j'ai plus besoin d'avoir un autre job en dehors, puis je fais de la mise en marché de proximité. De toute façon, ça passe par les mêmes systèmes d'abattoirs, donc question de célibaté, il n'y a aucun problème non plus. Il n'y a que des avantages et on n'applique même pas la loi. L'esprit de la loi, c'est permettons de la vente directe et l'on la bloque systématiquement. Donc, c'est un peu sur ces bases-là qu'on va devant la régie en demandant, écoutez, on demande d'être considéré comme des Canadiens comme les autres et non pas des citoyens de cinquième catégorie.
Et donc, on en revient toujours à la même chose, je pense. Le point essentiel demeure toujours pour l'Union paysanne d'en arriver à ce qu'il y ait la possibilité de pluralité syndicale au Québec.
Absolument. C'est le point de levier, c'est le point d'ancrage. Exemple très concret, la mise en marché, justement, pour reprendre cette question-là. Tant qu'il n'y a que l'UPA qui a eu droit de parole devant la régie, bien, ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient. Et le résultat, c'est qu'on a concentré les fermes, on les spécialise. Lorsque la CPTAQ décide, de façon assez ésotérique, merci, qu'en bas de 100 hectares, c'est pas viable comme ferme. C'est pas la loi de Dieu, ça, là. C'est pas écrit dans une loi au Québec. C'est la Commission de protection du territoire agricole qui, de façon arbitraire, dit en bas de 100 hectares, non, désolé, ça peut pas marcher. Mais c'est n'importe quoi. Dire, on peut très bien concevoir, j'ai pas 100 hectares, puis j'envisage d'en vivre. Où est le problème? Il y a plein de maraîchers qui ont 1 hectare, 2 hectares, puis qui en vivent correctement. C'est où cette histoire de 100 hectares? Donc, mais ils subissent l'influence de l'UPA en situation de monopole. Les comités consultatifs des MRC sont contrôlés par au moins 50 % de membres de l'UPA à l'intérieur d'eux. Donc, chaque fois qu'il y a une modification envisagée pour une question agricole sur les territoires des MRC, c'est l'UPA qui a le premier mot. Ils ont le premier mot également comme conseiller auprès de la CPTAQ. Ils ont le premier mot auprès de la Régie des marchés agricoles. Ils ont le premier mot auprès du financement parce que c'est eux autres même qui contrôlaient la financière agricole à peu près de A à Z. C'est le même président qui présidait l'UPA et la financière. Donc, tout le système a été mis en place par la voie unique de l'UPA. Donc, tant qu'on ne change pas ça, bien, difficile de changer le mode de financement, difficile de changer les applications des lois sur les mises en marché, difficile d'appliquer des changements dans la relève agricole, difficile de penser aménagement du territoire agricole autrement que par la vision de l'UPA. Fait qu'on est bloqué sur tous les fronts. Fait que c'est le point d'ancrage. Je ne veux pas dire, qu'on règle tout en changeant ça, mais le simple fait d'avoir 2, 3, 4 associations qui seraient reconnues et accréditées pour représenter les fermiers, comme c'est le cas partout dans le monde. L'Ontario a un système de gestion de l'offre. Ils ont plus de plans conjoints que nous autres. Ils ont plus de programmes sous quota que nous autres. Et ils ont quand même 3, 4 associations accréditées. Et je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner comme en Ontario. Ailleurs au pays, ils ont la liberté syndicale aussi. Ils ont la pluralité. Bon, c'est ce qu'on demande. Donc, on demande que les fermes aient une obligation de cotiser, mais qu'ils aient le droit de choisir leur association qui va les représenter. C'est un fondement démocratique. Et sinon, il n'y a rien qui bouge.
Dans la présente campagne électorale, le seul parti qui, très ouvertement, se prononce en faveur de la pluralité syndicale, la présence de plusieurs syndicats agricoles, c'est Québec solidaire.
Oui, effectivement. Remarquez qu'à l'interne, le Parti libéral est déjà allé dans ce sens-là aussi. Bon, il y a le PQ qui a tergiversé sur la question et qui s'en tient encore de justesse au maintien du monopole. Même la CAQ à l'interne a eu d'importantes discussions à l'effet de vouloir abolir le monopole. Mais je pense que toutes ces formations politiques-là ont simplement la crainte de représailles de la part de l'UPA. Et ils ne veulent pas se mettre l'UPA à dos en campagne électorale, donc se précipitent à Longueuil pour une quelconque conférence de presse pour un appui de la gestion de l'offre sans même avoir lu ce que c'est la gestion de l'offre. Désolé là, pour les formations politiques, je pense qu'elles ne sont pas au courant de la façon dont c'est géré au Québec et comment ça pourrait l'être. Fait qu'ils sont simplement allés là par souci, OK, on va être gentil, on va être copain avec l'UPA, puis on y va comme ça. Fait que c'est plus une question de courage politique actuellement de vouloir. Bon. Mon avis, c'est qu'ils vont peut-être essayer, parce qu'ils sont conscients aussi que ça cause des problèmes majeurs, ils vont peut-être essayer d'effriter ça par la bande. Et je pense que les accords de l'ALENA, c'est une bonne façon d'effriter le système de gestion de l'offre sans attaquer le taureau de l'UPA par les cornes, ou que ça peut être au niveau de la CPTQ ou la Régie des marchés agricoles, dont la présidente a été changée pour une autre. Non, il y a des pas subtils qui ont été faits. La présidente de la financière agricole qui était enlevée à l'UPA et donnée à quelqu'un d'autre. Donc, par la bande, sans oser affronter directement, bien, on essaie de modifier le système en place.
Donc, je présume que pour vos membres, les gens de l'Union paysanne et tous ceux que ça pourrait intéresser, ce que vous suggérez, c'est quoi? C'est d'être vigilant et de continuer d'être insistant auprès des gens du milieu politique?
Ça, c'est une partie de la chose, oui. Mais présentement, notre démarche devant la Régie des marchés agricoles à propos du hors-quota, c'est un élément majeur. Parce qu'il y a un immense nombre de fermes qui sont en difficulté présentement financière et qui n'arrivent pas à diversifier leurs opérations. Je prends l'exemple du lait filtré de façon très, très concrète. Bon, le revenu à la ferme a diminué parce qu'on a laissé rentrer du lait ou des substances laitières à bas prix. Puis donc, les entreprises laitières, c'est les agro-pur ou quoi que ce soit. On fait le choix d'aller s'approvisionner à l'étranger à bas coût au lieu de payer le prix pied ici. Donc, le prix total payé au fermier a diminué. Mais présentement, le fermier, il n'y a pas de possibilité de diversification. Donc, son lait, il ne peut pas décider demain matin au Québec, OK, ouais, le prix de gros à 60 quelques cents le litre, ouais, ça me convient moins parce que mes dépenses ont explosé, mon revenu baisse. Fait que j'aimerais ça être capable de faire peut-être un peu de transformation à la ferme ou de faire partie d'une coopérative. On va aller vendre le lait en vente directe au prix de détail. On va faire hébergement à la ferme et accommodement en restauration, transformer le lait en fromage, etc. Il y a un paquet de possibilités à l'échelle mondiale, c'est ce qu'on voit. Et au Québec, non. Vous êtes confiné à fournir du lait au prix de gros et à regarder votre prix baisser alors que vos dépenses augmentent. Bon, l'équation est assez simple. Qu'est-ce qui reste comme choix? Grossir ou abandonner? Donc, soit qu'il y a des fermes qui vont acquérir ceux qui disent « Bon, moi, je suis rendu à 60, 65, j'abandonne, j'ai pas de relève, les enfants n'ont pas les moyens, pas l'intérêt de reprendre une ferme qui vaut 4 millions, donc j'abandonne. » Et là, c'est le dépassage de la ferme. Donc, les autres fermes existantes vont ramasser une partie de la terre, le quota, le cheptel, la machinerie. Bon, donc, on grossit encore les survivants du système en disant « Bravo, la gestion de l'offre est merveilleuse, on a maintenu les fermes. » Faux. On les fait disparaître assez rapidement. Et il reste donc le scénario « J'abandonne, je vends. » Il y aurait en principe une troisième piste. Ce serait celle, justement, de la diversification. J'arrive, moi, à faire un revenu commercial au prix de gros, donc je vais chercher une plus-value améliorée, justement, en faisant table champêtre à la ferme, etc., agro-tourisme, mettons-en. Mais tout ça, ce sont des avenues qui sont à peu près systématiquement bloquées. Les tables champêtres sont interdites en zone verte au Québec. Et pour être table champêtre, il faut que les produits viennent de la ferme pour être capable d'accueillir des visiteurs. On les permet en zone blanche, mais les interdit en zone verte. Où est-ce que la production se fait? Waouh, j'ai pas compris la logique dans cette histoire-là. Fait que là, on bloque la diversification dans une large mesure. Oui, il y a des petits trous, mais qui restent des petits trous d'exception. Et voilà. Fait que là, on est bloqué. On assiste, impuissant, à la disparition des fermes en disant « Ah, c'est le destin cruel qui fait en sorte que les fermes doivent disparaître. » Pas vrai. Pas vrai. Le nombre de fermes, il augmente. En Europe et dans certains pays, il augmente. Aux États-Unis, actuellement, les petites fermes, il y a de la place pour ça. Il y a de la demande. On regarde les écoles agricoles au Québec, les ITA, il y a de la demande. Là, les jeunes apprennent en cours de route que, bon, oui, ils peuvent faire des légumes, puis des légumes, puis des légumes. Puis des fruits, puis quelques légumes aussi. Puis ils n'ont pas le droit dans le panier de rajouter une douzaine d'œufs, puis un litre de lait, puis une bouteille d'alcool, puis alors que le client leur rend amende. Puis là, ils se disent, je vais faire quoi, là? Fait que oui, on se bloque. On se bloque systématiquement le développement de la zone verte au Québec.
Maxime Laplante, on pourrait encore en jaser longtemps, je pense. Si vous êtes d'accord, on se donne rendez-vous après l'élection, après un certain temps. Et là, lorsqu'on aura vu les couleurs qu'affiche le futur gouvernement, bien, on se reparlera de tout ça.
Avec grand plaisir, M. Levac.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Ici Lionel Levac. L'Union paysanne veut donc forcer le test de la loi de mise en marché des produits agricoles devant la Régie des marchés. L'Union paysanne est encouragée par la victoire récente devant la Régie du Conseil des entrepreneurs agricoles qui a obtenu l'annulation d'un prélèvement monétaire sur chaque tonne de grains vendus entre producteurs, frais qu'avait imposé la fédération affiliée à l'UPA ou, comme on dit maintenant, les producteurs de grains du Québec. Au revoir.